ceux qui suivent le programme de l'Église, parce que normalement Manu aurait dû être là ce matin à la place pour prêcher. Il y a eu malheureusement des problèmes familiaux qui ont forcé la partie à Madagascar de manière un peu rapide. Et du coup, il vous présente aussi ses salutations. Il est bien arrivé à Madagascar. On voit en chemise courte, ça fait envie. Voilà. Ce matin, on va parler d'argent. En fait, on va surtout parler d'or. C'est encore mieux. On va lire un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je ne vous dis pas tout de suite duquel il s'agit. C'est un texte qui nous parle de générosité. Qu'est-ce que c'est la vraie générosité? Comment elle se manifeste? Quels en sont les fruits? Qu'est-ce que ça produit dans la vie de celui qui donne? Donc voilà, c'est un petit peu des questions que nous allons explorer au travers de ce texte. Je précise tout de suite que le but ici n'est pas d'augmenter les recettes de l'Église, ce qui se porte d'ailleurs plutôt bien, je crois, grâce à Dieu, mais voilà, de questionner aussi notre rapport à l'argent d'une manière plus générale et à la générosité, qui est aussi une des caractéristiques de Dieu et du chrétien. Vous savez probablement que pendant toute sa vie, le roi David a eu un désir fort de construire un temple pour l'Éternel. Dieu lui avait dit que ce ne serait pas lui qui le ferait, mais ce serait son fils, Salomon, qui lui succédera. Alors, tout en se soumettant à cette directive divine, David avait préparé le terrain. Il avait rassemblé les matériaux nécessaires, et il en fallait un paquet. Il avait fait les plans. Il avait, s'était assuré que d'avoir un parterre d'architectes et d'artisans qualifiés. En fait, tout est prêt. Il arrive à la fin de sa vie et on pourrait dire mission accomplie. Tout est prêt. Vraiment tout. Oui, tout. Mais il décide de faire encore plus. Il va donner sur ses deniers personnels en tant que roi encore plus de l'or et de l'argent pour dans l'objectif de la construction de ce temple. Plus précisément, il va donner 100 tonnes d'or pur et 250 tonnes d'argent. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre économie personnelle, moi non. Et puis ensuite, David va s'adresser au peuple publiquement en disant « Qui d'entre vous est maintenant prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel ?» C'est là où je vous propose d'ouvrir vos Bibles, dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 29, des versets 6 à 19. 1 Chronique 29, 6 à 19. Donc là, David, dans son appel, « Qui veut faire comme moi ?» En gros, c'est ce qu'il dit. Et voilà la suite, donc à partir du verset 6. Alors, je lis dans la version, Colombe, sauf pour les versets 7 qui ne traduisent pas, on va dire, en chiffres que nous comprenons. Alors, les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et même les chefs des travaux du roi, se portèrent volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces, plus de 300 tonnes d'argent, 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Voilà. Ils remirent aussi entre les mains de Yéhiel, le Guershonite, c'était probablement un orfèvre, ce qui se trouva comme pierre pour le trésor de la maison de l'Éternel. Pierre précieuse, hein, bien entendu, il ne s'agit pas de pavé en grès. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans partage qu'ils s'étaient portés volontaires pour l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Verset 10, « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. » David dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires, comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions de pensée et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage pour qu'il garde tes commandements, tes préceptes, tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il bâtisse l'édifice pour lequel j'ai fait tous ces préparatifs. Nous allons découper ce texte en trois parties. Dans un premier temps, on va d'abord s'attarder sur l'abondance des biens qui ont été donnés. Parce que quand même, ça vaut le coup de se donner un peu une idée plus claire de ce que tout cela représente. Ensuite, on va voir le résultat concret de ces dons, un résultat à la fois matériel et un résultat spirituel. Dans un troisième temps, on va davantage creuser cette prière, qui est quasiment une louange de David, et qui va nous apprendre beaucoup de choses aussi sur notre rapport à l'argent et à Dieu. Alors on commence par la première partie, donc des dons généreux. À l'appel de David, le peuple répond avec générosité et enthousiasme. Il nous est dit que les chefs des familles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, donc ce sont des officiers militaires, et les chefs des travaux du roi se portèrent volontaires. Les chefs des travaux du roi, nous ne savons pas précisément de qui il s'agit, mais probablement de personnes attachées au service du palais royal, donc nous pourrions dire d'une certaine façon des fonctionnaires. La société civile dans son ensemble, militaire, politique, fonctionnaire, donne et met la main à la poche. On peut dire que c'est vraiment un élan collectif. Alors, il est ici fait mention des chefs, bien sûr, mais il est très probable que ces chefs eux-mêmes aient relayé l'appel auprès des populations dont ils avaient la responsabilité, et que ce ne soit pas simplement les patrons qui aient donné, mais aussi le peuple dans son entier. On remarquera donc l'énorme quantité de biens récoltés. Et quand un littéraire commence à faire des maths, ça peut être assez drôle. Alors je me suis amusé à faire quelques calculs pour avoir une équivalence en or de quelque chose qui nous parle un peu plus. David donc a donné 200 tonnes d'or. Alors, 170 tonnes. Pardon. Ça c'est le peuple qui le donne, pardon, 170 tonnes. En or, ça représente 200 Twingo, ou encore 14 bus RATP vides, bien sûr. Si on ajoute le don total, donc tous les matériaux compris, plus ceux que David a donnés, on arrive à 4550 tonnes, ce qui nous donne donc 5350 Twingo, 395 bus RATP, ou encore pour les férus d'aéronautique, 17 A380. Nous avons à cette époque-là une population active d'environ 2,6 millions d'habitants. On le sait parce que David a fait un recensement malheureux quelques temps au préalable Et on recense, alors ça dépend des versions, mais si on regarde un chronique, 1,3 million d'hommes en âge de porter des armes, donc population active, on multiplie par deux pour avoir les femmes, nous avons donc 2,6 millions d'Israélites à cette époque-là, grosso modo, en tout cas au niveau de la population active. Si on divise donc la quantité de matériaux donnés par personne, nous avons 1,75 kg de matériaux par Israélite. Et au niveau de l'or, 60 grammes par personne. Vous allez me dire 60 grammes, bon, c'est pas terrible. Mais je me suis amusé à peser cette alliance-là sur ma petite balance de cuisine, et elle fait 3 grammes. Donc, 60 grammes d'or, ça fait quand même 20 alliances. Et c'est pas si mal. On peut donc dire que, et on ne compte pas non plus les pierres précieuses hein, dedans, que c'est vraiment un afflux massif. La question se pose du coup, mais d'où vient une telle quantité de matériaux? Je ne sais pas si vous avez quelque part dans votre trésor personnel une vingtaine d'alliances qui traînent, ce n'est pas le cas chez nous. Probablement, cet afflux de matériaux, c'est même une certaine certitude, elle venait du butin qui a été récupéré sur les peuples conquis. Donc d'une certaine manière, cet or, cet argent, ce fer, ce bronze, c'est le résultat de l'obéissance, puisque Dieu avait ordonné aux Israélites de prendre possession de Canaan et de déposséder les habitants. En répondant à cet appel, Israël, le peuple d'Israël, n'a fait que récupérer ce qui existait déjà. Alors pourquoi une telle générosité? La réponse est assez évidente. Il ne s'agit pas ici de construire un palais pour simplement flatter l'ego de son occupant, mais le projet, il est beaucoup plus glorieux que ça. Il s'agit de construire un temple pour l'Éternel. C'est un temple qui doit refléter la magnificence, la grandeur, l'immensité de Dieu. Ça doit être le symbole du Dieu d'Israël, qui est un Dieu incomparable. Alors évidemment, un temple ne peut pas contenir Dieu. D'ailleurs, Dieu le dira lui-même à David, tu veux me construire un temple, c'est une bonne idée, mais tu sais, moi, la terre, c'est un marchepied pour moi, alors un temple, tu penses bien que... voilà. Mais il n'empêche que, d'un point de vue humain, la magnificence de ce temple devait refléter quelque chose de la magnificence de Dieu. Alors, quel est ce résultat? Le résultat, il est de deux ordres, je l'ai dit. Il est à la fois matériel et spirituel. Matériellement, alors, ce n'est pas dans le texte, hein, je déborde un petit peu dans la suite. Il a fallu 7 ans pour construire ce temple. Et vu la quantité d'or disponible, Salomon ne s'est pas gêné pour en mettre partout. J'ai été voir un petit peu les détails, puisque la Bible est assez précise dans ce domaine-là. Et saviez-vous que dans ce temple, tous les murs à l'intérieur étaient plaqués d'or fin? Voilà. Le coffre de l'Alliance est plaqué en or fin, les chérubins au-dessus du coffre, les poutres, les seuils, les parois, les battants des portes, les sculptures, le plancher du lieu saint est intégralement recouvert d'or. C'est pas fini. Dans le lieu très saint, qui est une sorte de cube de 10 mètres sur 10, donc il y a quand même du volume, le plancher est recouvert d'or, les murs sont recouverts d'or, le plafond est recouvert d'or. En fait, vous rentrez dans un cube en or. Et ils ont été jusqu'à des petits détails, puisque les gonds des portes qui mènent au lieu très saint sont en or massif, de même que les clous qui ont été utilisés pour cet espace. Donc c'est pour vous dire que, voilà, même les clous sont en or massif. Je crois qu'ils en avaient tellement qu'ils se sont dit, bon, on ne sait même pas quoi en faire, on va faire des clous en or. Les ustensiles, les couteaux, les coupes, les brasiers, les calices, etc. sont en or massif, évidemment. Tout ça nous dit que quand vous rentrez dans le temple de l'Éternel, ça brille de partout. C'est juste magnifique. Et je ne crois pas qu'il y ait eu jamais dans l'histoire un endroit aussi beau que le temple de Salomon. Voilà le résultat concret de la générosité du peuple. D'un point de vue spirituel, le texte souligne à plusieurs reprises le caractère volontaire de l'offrande. C'est un mot qui ressort souvent au verset 8 et 9. Le mot est répété comme pour bien accentuer le fait que personne n'a été obligé de donner quoi que ce soit. Et ce volontarisme a produit un fruit particulier, peut-être vous l'avez remarqué, c'est la joie. Au verset 9, je lis, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, ou de ses offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans partage qu'ils s'étaient portés volontaires pour l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. C'est un peu comme si, vous voyez, ce peuple réuni, quand il contemple là tout ce qui a été stocké, on imagine les entrepôts remplis de matériaux précieux, ils disent waouh, on a donné tout ça au temple de l'Éternel, c'est génial. Cette situation, elle évoque, je parle de la joie, une parole du Seigneur qui a été prononcée, plutôt relatée par Paul, qui dit « Il y a plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Voilà, ce peuple a expérimenté à ce moment-là la joie du don. Et David aussi se réjouit. Même si le texte ne le dit pas explicitement, je pense que cette générosité a aussi dû plaire à Dieu. Quand il a dû voir ce peuple amener volontairement, piocher sur son propre trésor, ses économies, ses torts, cet argent, je suis sûr que Dieu s'est réjoui. Il aime tellement quand ses enfants donnent spontanément, sans arrière-pensée, sans volonté de récupération, sans être forcé par une sorte de pression sociale ou morale ou que sais-je, simplement parce qu'ils ont envie. Ça réjouit son cœur de père. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un Dieu généreux. C'est un Dieu qui donne sans compter, ne serait-ce que la terre sur laquelle on vit, c'est un endroit magnifique. Il a donné des ressources incroyables, il donne la pluie, le soleil sur tous les humains, même ceux qui le détestent. C'est un Dieu qui est plein de générosité, ça déborde de sa nature. Et quand il voit des êtres humains qui se conduisent de la même manière, ça le réjouit parce que ça reflète son caractère divin. Et passons maintenant à la prière de David qui fait suite aux donations du peuple. Une très belle prière. Mais d'abord, une question. Savez-vous comment se terminent en général les galas de charité ? Ou les événements publics où on fait appel à la générosité du public, genre Téléthon. Comment ça se termine ces événements ?
Par des promesses.
Par des promesses de dons, ouais. Et une fois que les promesses ont été données et encore mieux faites, qu'est-ce qu'on fait ?
On donne un chiffre.
On donne un chiffre, ouais, exact. Ça donne du corps. Mais après, à la fin, surtout, ne jamais oublier. On remercie. Quand même, les donateurs. Quand vous avez un millionnaire bien disposé en face de vous qui vous fait un chèque avec plein de zéros, faut pas oublier de le remercier quand même. Parce que l'année prochaine, vous allez peut-être le solliciter à nouveau. Mais dans la prière de David, on pourrait s'attendre à un tel remerciement. Oh, vous êtes formidables, les gars, franchement, vous avez donné, c'est top, quoi. Mais pas du tout. À aucun moment, David, dans cette prière, ne met en valeur la générosité du peuple. Au contraire, peut-être pas au contraire, mais en tout cas en contraste, David va souligner et louer Dieu. Il va remercier Dieu. Et il y a une espèce de cantique d'adoration qui sort de ses lèvres et qui est tout droit dirigé vers la personne de Dieu et non pas vers les donateurs. Pourquoi? Est-ce que nous allons voir tout de suite. D'abord, David commence par louer la splendeur du nom de Dieu. Premièrement, il remet les choses à leur perspective, en juste perspective, à la place qui en revient. La première phrase, verset 10 et 11, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël, à toi, éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Est-ce que ça ne nous fait pas penser à une autre prière, cette introduction-là? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé tout de suite au Notre Père. Il y a des mots qui ressortent comme ça. À toi la puissance, à toi le règne. C'est pas ce modèle-là aussi de prière que Jésus nous a donné? Un petit peu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que la sainteté de ton nom soit respectée et qu'elle soit reconnue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis à la fin de cette prière, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà ce qui convient dans un premier temps, c'est de louer Dieu pour qui il est, pour sa grandeur, pour sa majesté. Deuxièmement, David met en lumière le fait que tout appartient à Dieu. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas suivi. Parce qu'au verset 11, il dit « Tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. » Verset 12 « C'est de toi que vient la richesse. » Verset 14 « Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. » Verset 16 « C'est de ta main que vient toute cette abondance de biens. » Et fin du verset 16, enfin de conclusion, « Tout appartient. » Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui s'y trouve. Et dans ce sens, les dons qui sont offerts par le roi et par le peuple ne sont qu'un retour partiel de ce que Dieu avait déjà donné. N'est-ce pas ? C'est pour cela qu'il convient d'honorer Dieu premièrement, parce que c'est lui qui donne. Et de ce que nous recevons de sa part, nous lui rendons une partie. Écoutez bien l'étonnement de David quand il dit « Mais qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires ?» Ce qui l'étonne, c'est pas tant le volume de l'offrande finalement, mais en soi, mais c'est le fait que Dieu les ait tellement comblés de richesses. Quand il voit tout ça, il se dit « Mais finalement, on est qui quoi, pour pouvoir avoir autant de choses à donner à Dieu ?» Il est important de garder à l'esprit, je crois, pour nous que les richesses du monde sont à l'éternel. Premièrement, nos possessions, notre maison, notre voiture, nos vies, nos enfants, si nous en avons, sont à lui, ultimement. Rien, absolument rien, n'échappe à son mandat de propriété. Est-ce qu'on est vraiment convaincu de cette vérité ? Ou est-ce que nous avons encore quelque part dans notre cœur cette prétention de croire que nous sommes détenteurs, propriétaires d'une parcelle de quelque chose dans notre vie? Si tel est le cas, alors nous sommes dans l'illusion ou dans l'orgueil. L'enjeu, un des enjeux de la vie chrétienne et de la perspective que nous avons dans notre vie chrétienne, c'est de nous considérer comme les dépositaires d'une grâce, comme les gestionnaires des biens, au sens large, pas simplement financiers, qui nous sont confiés et dont Dieu nous demande un compte un jour. Ça suppose aussi que ce qu'il donne à un moment donné, il peut le reprendre, sans être tenu de se justifier, sans être obligé de comparaître devant le tribunal, devant notre tribunal, parce qu'à un moment donné, nous avons perdu quelque chose que Dieu nous avait donné. Job l'avait compris, lui qui était immensément riche et béni, quand il disait « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Dieu n'est pas un Dieu lunatique qui s'amuse à donner et à reprendre pour voyez, tester un peu comment ça va réagir. Ce n'est pas son caractère. Mais parfois, il veut savoir où est notre cœur. Est-ce que nous sommes plus attachés au bienfait ou au bienfaiteur. Et parfois, pour mettre notre cœur à l'épreuve, il peut comprendre ce qu'il donne. Nous devons apprendre à développer en toute chose une mentalité de locataire reconnaissant et non pas de propriétaire exigeant. David poursuit en disant, dans une troisième partie, il reconnaît que nos jours sont sur la terre comme une ombre. Je lis au verset 15, « Nous sommes devant toi des étrangers, des résidents temporaires. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. » Verset 15. Face à la grandeur de l'Éternel, David, le roi David, pose en contraste l'humilité de la condition humaine. Il parle d'étrangers, de résidents temporaires, nous sommes comme une ombre. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'aller dans un pays étranger. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et souvent on se sent un peu bête en fait. On se sent même impuissant, parce qu'on est dans un environnement qu'on ne comprend rien. Mais qu'est-ce qu'ils disent les gens? Pourquoi ils rigolent? Qu'est-ce qui est marqué là? Comment est-ce que je vais pouvoir trouver mon chemin? Comment on fait pour manger ce truc-là? On se sent souvent un peu bête quand on est à l'étranger, un peu impuissant, on se sent humble parce qu'on ne comprend pas non plus ce que les gens disent et on a du mal à exprimer ce qu'on voudrait dire. Des résidents temporaires, on est là, demain on n'est plus là. Si vous avez une résidence secondaire, vous y allez pendant l'été peut-être, vous savez que ce n'est pas là vos racines, c'est juste pour passer du bon moment. Et puis en septembre, retour à la réalité. Une ombre, qu'est-ce qu'il y a de plus fugace, de plus passager qu'une ombre? L'ombre, elle est là, la seconde d'après, elle n'est plus. Cela met en lumière la finitude de l'être humain. Ça nous pousse à une profonde humilité. Nous ne sommes pas des super-hommes, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes finis, nous avons un début, nous avons une fin, à l'inverse de Dieu qui, lui, est éternel, qui ne s'arrête jamais. Je pense que aussi en prononçant ces paroles, David, je le rappelle, il était âgé hein, à cette époque-là, quand il prononce ce discours, il y voit un moteur pour la générosité. Certainement, il y avait dans son cœur cette pensée de se dire « Bon, je vais bientôt mourir, et tout ce que j'ai accumulé, je l'emporterai pas avec moi. » Et c'est une réalité universelle. Hein. Le jour de notre mort, ce seront nos descendants et le fisc qui profiteront de nos richesses blessées. Et ils ne vous oublieront pas. Quelque part, David fait écho aux paroles que Jésus a prononcées plusieurs siècles plus tard. Jésus qui disait « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » On voit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 20. C'est un principe qui est peut-être plus évident quand on arrive à la fin de sa vie, où on réalise que, voilà, on est sur la fin et que ce que nous avons pu accumuler pendant notre vie, bien, il est peut-être temps de l'utiliser pour des choses plus éternelles. Mais c'est un principe qui ne s'adresse pas, bien sûr, qu'aux personnes âgées, c'est un principe universel. Et je dirais même que plus on commence à l'appliquer tôt, et mieux ça vaut. Finalement, qu'est-ce qui compte vraiment? Nous arrivons à la dernière partie de cette louange de David. Au-delà de la question du don, la prière de David se termine par une requête qui concerne le cœur de son peuple, et le cœur de son fils. Ce que nous voyons au verset 18 et 19. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions de pensée et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage, afin qu'ils gardent tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions. Le cœur, voilà ce qui compte vraiment. Si le peuple avait donné juste par imitation, ou pour faire comme tout le monde, ou en traînant les pieds, est-ce que ça aurait eu la même valeur? La réponse est non, bien sûr. David dit au verset 17, « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur. » Dieu voit dans quelle disposition nous donnons. Il le sait. Et si notre voisin l'ignore, Dieu le voit. Tu aimes la droiture. Et quand je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici, offrir volontairement ses dons. Ce qui est beau, au-delà de la quantité de matériaux qui a été rassemblé, c'est la disposition du cœur avec lequel ça a été fait. Un cœur droit, voilà qui plaît à l'Éternel. En fait, c'est la base, c'est la source. Un cœur tordu donne des choses tordues. Un cœur droit donne du fruit bon. Et quelque part, c'est pas étonnant que David termine cette prière, non pas en demandant que son peuple soit encore plus riche, mais en demandant que Dieu garde son cœur, ainsi que celui de son fils. En fait, c'est la seule requête que vous trouverez dans cette prière. Il y en a deux, pour être précis. La toute dernière, fais en sorte que mon fils puisse bien bâtir ce temple, parce que c'est quand même le but final, mais garde son cœur. Fais en sorte qu'il ne se détourne pas de toi, qu'il garde tes commandements et ne s'en détourne ni à droite ni à gauche. Parce que si c'est le cas, si le cœur reste attaché à l'Éternel, alors c'est bon pour le reste, tout est assuré. Ça découlera naturellement. C'est un peu un testament que David est en train de livrer. Et ça sera d'ailleurs son dernier discours, en tout cas relaté dans la parole. Les dernières paroles relatées dans la Bible sont celles-ci. « Garde le cœur de mon peuple et de mon fils. » Je vais terminer en guise de conclusion par quelques questions. Il y en a six blocs de questions. Nous amène à réfléchir sur ce qu'on a vu, peut-être aussi à tirer des conclusions dans le secret du cœur de chacun. Premièrement, aimons-nous donner pour l'œuvre du Seigneur? Sinon, pour quelle raison? Qu'est-ce qui retient notre générosité? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est un certain esprit d'avarice? Est-ce que c'est un manque de considération des besoins pour l'œuvre du Seigneur? Mais certainement, il y a d'autres raisons. Sommes-nous conscients que l'avarice en particulier est un péché devant Dieu qui est au moins aussi grave que l'immoralité sexuelle? Si nous donnons à l'œuvre du Seigneur, comment donnons-nous? Est-ce que c'est avec joie et spontanément, ou bien est-ce que c'est avec des arrière-pensées en se disant que peut-être si je donne un peu plus, alors le Seigneur va me rendre d'une certaine manière? Ça, c'est le raisonnement des idolâtres. C'est ceux qui donnent à leurs idoles en espérant recevoir en échange. Mais avec notre Dieu, on n'est pas dans un troc. Est-ce que c'est ça notre motivation, ou bien est-ce que notre cœur aime à donner? Comment donnons-nous? Croyons-nous que Dieu est le propriétaire de toutes choses? Croyons-nous que nos possessions matérielles ou immatérielles ne sont que le fruit de sa grâce et de ses dons généreux? Vous pourriez me dire, oui, mais mon salaire, moi, je le tire de mon travail. Mais c'est vrai. Mais qui vous permet de travailler? Qui vous donne la force, la santé pour travailler? Qui vous a donné l'intelligence, l'éducation pour travailler? qui donne à votre patron ou à votre employeur les ressources pour avoir de l'argent qui rentre et payer votre salaire. Ultimement, c'est Dieu. Sommes-nous convaincus de cela? Quand nous donnons, avons-nous conscience de la joie du Père face à notre offrande volontaire? Avez-vous déjà expérimenté, goûté la joie qu'il y a dans le don volontaire, qui est une joie profonde? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu? Est-ce que vous savez à quel point c'est quelque chose de doux, de bon, quand notre offrande est donnée volontairement pour Dieu, pour son œuvre? Connaissez-vous cette joie? Qu'est-ce qui compte le plus dans notre vie? Est-ce que c'est accumuler le maximum de biens jusqu'à la mort, ou bien désirer sans cesse, et avec l'aide de l'Esprit Saint, que notre cœur soit renouvelé devant Dieu, que nous obéissions à ses commandements, que nous restions attachés à ses commandements? Accumulation ou obéissance? Où est notre cœur? Enfin, je terminerai sur cette question. Avons-nous réellement compris que Jésus-Christ a tout donné pour nous? Lui n'a pas compté. Lui qui était roi des rois, qui possédait tout, qui était dans un état de gloire parfaite dans le ciel, est descendu sur cette terre et il s'est donné entièrement. Il a même donné sa vie, ce qu'il y avait de plus précieux. Avons-nous compris cela? Si nous sommes chrétiens, je le suppose. Si nous ne le sommes pas, quelle est notre réaction face à ce cadeau? Traitons-nous le cadeau de Jésus-Christ comme quantité négligeable, avec une superbe indifférence, ou bien accepterons-nous d'être brisés par ce don, cette générosité, de lui exprimer notre reconnaissance? Refuser un tel cadeau, ça serait vraiment se priver de bien des bénédictions. Mais c'est aussi prendre le risque, certain, d'en payer le prix. Voilà que le Seigneur nous encourage, nous aide à développer un esprit de don, pas simplement financier, mais dans tous les domaines de notre vie, et que cela serve à sa gloire et que nous donne cette grâce aussi de connaître cette gloire. Merci.